voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Relire Jules Renard. Mais chaque génération ne continue-t-elle pas à prendre plaisir à lire son célèbre « Poil de carotte » Néanmoins, ce roman a tendance à faire oublier que Jules Renard a largement écrit pour le théâtre. Et pour découvrir ce théâtre, Canal Academy vous propose d'écouter la lecture de la préface à son théâtre complet qui est paru aux éditions Le Bélier dans la première édition en 1957. Une préface rédigée, on ne s'y attendrait pas, par Louis Powells, écrivain, journaliste et membre de l'Académie des Beaux-Arts.
Jules Renard va avoir le mérite, l'extrême originalité, d'avoir le souffle court, mais clair, d'emboucher une toute petite trompette, mais d'en jouer à la perfection. Tout le monde hurle en cinq actes. Il va non pas murmurer, mais grincer des dents en un ou deux actes. Il sera grand parce qu'il sera petit d'une manière exemplaire. C'est d'ailleurs ce que Claudel voyait avec un mélange d'horreur et d'admiration quand il reconnaissait en lui le goût français. Jules Renard, qui aimait La Fontaine, savait qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Il a eu Jules Renard. Grande chance pour faire carrière dans un pays qui a fait du mot « petit » l'indispensable passe-partout. On a une petite amie à qui l'on fixe un petit rendez-vous dans un petit bistrot où le petit vin blanc est excellent. Du petit coin au brave petit gars, bonheur de vivre et petitesse sont synonymes. Cet homme qui écrivait superbement le théâtre, le dépotoir de la littérature, tenait à jour en compagnie de sa brave petite épouse Marinette le cahier de recettes de ses pièces à 50 petits centimes près. L'écriture est moulée et les colonnes de chiffres sont tirées à la règle. Ce n'est pas par profonde, par dantesque avarice, comme on verra chez Claudel. Ce vieillard, me disait un jour Mauriac, se décompose dans une avarice essentielle. C'est par vocation de comptable, par nature de petit employé. D'ailleurs, Jules Renard, qui comptait sur les boutades pour cerner une vérité qui pourrissait sous ses yeux en minuscules vérités successives, n'était pas du tout sûr que la littérature ait des dépotoirs. C'était un homme de lettres. Pour l'homme de lettres, il n'y avait pas d'activité de seconde zone. Ce n'était pas un écrivain, c'est-à-dire un aventurier pour qui écrire n'est qu'une manière de dénouer des crises intérieures. Jules Renard vivait la main à la plume. Plume pour les contes, C-O-N-T-E-S, plume pour les contes, C-O-M-P-T-E-S. Quand il écrivait que le théâtre est le dépotoir de la littérature, il éprouvait encore le besoin de faire de la littérature. Et dans le même temps, il composait une version théâtrale de sa nouvelle « La demande ». La pièce représentée en 1895 n'est pas au reste sa version, mais celle de son ami Georges Docroy. Ses véritables débuts se situent en 1897 et 1898 avec Le plaisir de rompre et Le pain de ménage. Il se cache sans doute derrière Le plaisir de rompre, une confidence triste, l'adieu à une petite maîtresse par un monsieur sage, trop sage, qui se marie et qui eût aimé, follement aimé, mais qui de nature est plus proche de monsieur Prudhomme que de Tristan. L'amour, dans les pièces de Jules Renard, va rôder comme l'ombre d'un voleur. Ce n'est pas une réalité. C'est une idée que l'on caresse avec précaution, de loin, et qui s'évanouit bien vite. L'amour, chez Jules Renard, est pareil à ces anneaux que les petits enfants, au manège des Tuileries, tentent de décrocher. Ils tournent sur leurs chevaux de bois, raides et attentifs, une petite baguette de bois au poing, et la baguette passe toujours à côté de l'anneau. De même, Jules Renard, figé, passe à côté de l'amour. Non certes du brave amour conjugal, du brave petit amour, mais de l'amour-passion qu'il faut avoir connu pour donner de l'air à la création. L'amertume de n'être que ce que l'on est, l'amertume d'avoir le cœur trop petit, mêlé au balourd contentement d'être comme la moyenne des gens, donne à Jules Renard qui marivaude de la saveur, du pathos touchant. L'extraordinaire est que ce petit homme trouve dans son intelligence et dans son humilité de quoi s'enchanter de cette petitesse, de cette médiocrité, ou plutôt de quoi utiliser cette petitesse, cette médiocrité, comme un effet de l'art. D'emblée, il atteint au type. Il se regarde au-dessous de lui-même avec tant d'acuité qu'il se dépasse. C'est tout le secret de Jules Renard. Il croit faire, avec ses deux actes, des œuvres parisiennes. Elles sont parisiennes, en effet, par le sujet, la manière de les traiter, qui cache un drame, les faits humains. Puis les confidences s'élargissent, car Jules Renard, l'œil fixé sur soi, n'agit qu'en s'avouant, et avec le siècle, naît poil de carotte. C'est aux yeux de certains le chef-d'œuvre. Mais les artistes qui l'interprètent savent que la rouerie y a une part. On y voit Jules Renard s'apitoyant sur Jules Renard, sachant en cours de route qu'il s'apitoie, s'en dégoûtant, et gommant ses larmes de crocodile artiste d'une façon pudique qui, elle, arrache les larmes. Avec M. Vernet, qui, à mon sens, l'emporte sur Paul de Carotte, nous touchons à ce que le naturalisme a produit de plus haut au théâtre, à cette réserve près que le théâtre, dans cette école, est toujours au roman ce que le plan d'un architecte est à la riche odeur d'un vieux grenier. La vie projetée par rapport à la vie vécue, l'idée en regard de l'expérience. M. Vernet, c'est la défense et l'illustration du bon petit amour bourgeois. L'amour-passion y est représenté sous les traits de l'écornifleur, comme dans Tartuffe, la religion sous le masque du cafard lubrique. Ce n'est pas grand, mais c'est grandement émouvant, comme Tartuffe est grandement comique. Négligeons 8 jours à la campagne et le cousin de Rose. Il n'y a rien à dire sinon que c'est du Louis Pergaud en col dur. Négligeons aussi la maîtresse, que nous n'avons pas fait figurer dans ce théâtre complet, puisqu'il ne s'agit pas d'une pièce, mais d'un dialogue écrit avant que Jules Renard ait songé au théâtre. De même, n'avons-nous pas fait figurer l'écrivain au chant, pièce en un acte tirée par Jules Princet des Bucoliques et représentée le 2 août 1908 au Théâtre du Peuple de Bussan. Retenons La Bigote. C'est la dernière pièce de Jules Renard. C'est une confidence aussi, mais confondante. Elle fut prise à tort pour une pièce à thèse en un temps où l'anticléricalisme n'avait pas mauvaise conscience d'être primaire. Or, Jules Renard ne milite pas. Il décrit son père, qui s'estimait moralement cocufié par le curé, et sa mère, soumise avec ravissement, avec une sorte de jouissance vengeresse, à la soutane. Après le petit chant fier et pudique, désolé et valeureux, en l'honneur de l'amour conjugal, après ce joli petit cœur des enfants des écoles à la gloire du brave et petit amour des vieux époux, après cela, voilà à travers La Bigote le drame du non-amour, le drame du couple qui, à force de silence, a fini par s'entendre. Voilà les abîmes du non-amour. Ce non-amour conjugal emprunte les formes de la lutte entre l'Église et la libre pensée. Monsieur ne croit pas en Dieu, et Madame est bigote. S'agit-il d'une pièce sac à charbon? D'une pièce croix-croix? D'une pièce au service de la séparation de l'Église et de l'État? D'une ode au petit père Courbe? Non pas. Il s'agit d'un souvenir douloureux. Jules Renard n'en aura jamais fini de souffrir d'avoir vécu entre un père atrocement fier et une mère tragiquement dévote. Il redemande enfance en revivant ce drame dans son âge mûr. Mais Jules Renard croyait à la fée électricité et au socialisme. il plaçait, avec un mélange de générosité et de madrerie, son fauteuil d'académicien Goncourt dans le sens de l'histoire. Après Jules Renard, un ministre s'écriera à la tribune de la Chambre « Nous avons éteint dans le ciel, messieurs, des lumières qu'on ne rallumera plus. C'est, si je puis dire, à la faveur de ce politique éteignoir, que la bigote passa les feux de la rampe. » Jules Renard, grâce à cette pièce, fit figure de dramaturge d'avant-garde. Les criailleries des cléricaux l'y aidèrent. Cependant, la bigote était, plus qu'une œuvre anticléricale, une tragédie de la solitude à deux, de cette solitude qui devait un jour précipiter le père de Jules Renard dans un puits, non à la recherche de la vérité, mais de l'oubli. L'auteur avait assez d'intelligence, et une intelligence assez désabusée, pour voir ce qui, dans son œuvre, allait dans le sens de la propagande anticléricale et ce qui allait dans le sens de la confidence tragique, ce qui était du côté de l'émouvant aveu et ce qui était du côté de l'air du temps. Mais il y avait avantage à passer pour un écrivain révolutionnaire, un héroïque défenseur de la laïcité. Depuis 60 ans et plus, c'est à gauche que l'homme de lettres se fait les plus belles rentes. La veille de la mort de Jules Renard, le 21 mai 1910, Louis Nassau, dans un article publié par le journal Comédia, entretenait ses lecteurs de la pièce que l'auteur de La Bigote projetait d'écrire. Cet entêté qui n'a jamais été achevé. Jules Renard avait à la fois créé son style et sa légende, celle du bourru sarcastique, cousine de la légende qui entourait Lucien Descaves et que nous retrouvons aujourd'hui chez Léoto. L'article de Louis Nassau était déjà un article nécrologique. Celui de Léon Blum, le jour des obsèques, c'est l'oraison funèbre dans le plus pur style républicain. On distingue chez les couturières, en argot de métier, celles qui font les tailleurs, les robes ajustées et les flouteuses. L'article de Léon Blum est d'une flouteuse. Les lettres françaises n'ont pas fait de pertes plus graves depuis Goncourt et Verlaine. Ce n'est pas seulement un grand écrivain qui vient de mourir, c'est un maître. Son œuvre qui touche à la perfection d'aussi près qu'aucune production littéraire de ce temps ne fut nullement une œuvre close, figée, confinée en elle-même. Ce fut une œuvre fécondante, agissante. Elle durera par son importance, par la valeur d'exemple qu'elle représentait, par la force d'influence qu'elle contient. Coup de chapeau à l'artiste incontestable, mais surtout éloge de l'œuvre militant en faveur du rationalisme, de l'anticléricalisme et du progrès social. Cet art de Léon Blum, art de développer vaguement, mélodieusement, généreusement des arguments de partisans stricts, cet art est à l'opposé de celui qu'il célèbre. Jules Renard dit nettement, avec sécheresse, des vérités qui n'ont pas de parti, sinon le parti pris de préférer l'immédiat, le fragmentaire, l'apparent au transcendant, à la signification secrète. L'amour, la guerre, la mort, qui sont les thèmes de toute haute littérature, sont absents de l'œuvre de Renard, ou bien présents à l'état squelettique. Et c'est cependant une œuvre qui nous touche, car on y voit l'absolue honnêteté de la pensée à ras-de-terre. Jules Renard a rompu, lui qui prenait la fonction de l'homme de lettres plus qu'au sérieux, avec le vice des hommes de lettres de son époque, qui était l'éloquence. Une éloquence telle qu'elle rendait inaudible le théâtre. Puisqu'il s'agissait de travailler dans l'humble, il a compris que l'observation des menus faits de tous les jours rendait mieux compte du réel que les tirades des confrères qui se piquaient d'aller aux petites gens. Directement de l'humble qui parle à l'humble qui écoute. Ce n'est pas un mince ouvrage, quand bien même il s'y mêlerait quelques maniérismes. Un critique, M. Nazzi, dans Comédia, écrivait à ce sujet « Jules Renard n'est pas de ceux-là qui étalent avec ostentation ce qu'ils appellent leurs idées, leurs opinions et leurs thèses. Il n'a point fait le tour du monde et des systèmes. Il ne joue pas au pédagogue. Il n'est qu'un artiste. Et son idéal est de traduire humainement la nature de l'homme. Il n'est pas très sûr que cette traduction humaine soit une traduction fidèle. C'est l'homme, moins les passions et les grands mouvements de l'âme. Mais le scrupule de rien fausser, d'aller au fait sans passer par des idées, se retrouve dans le style dramatique de Jules Renard, plus que dépouillé, écorché. Il y a deux façons d'avoir du style. C'est d'être habité par les dieux ou d'être très simplement et scrupuleusement soumis aux choses. Les deux exigent une égale pureté. Renard a du style. Il n'en doutait d'ailleurs pas, lui qui notait dans son journal « Capus aura tout de même du mal à résister. La postérité a un faible pour le style. » Son théâtre est d'ambition plus limitée encore que son œuvre romanesque, mais il résiste. C'est le salut par le style. Et il y a de l'honneur à bénéficier d'un tel salut.
Je vous rappelle que ce texte était rédigé par Louis Powels, académicien de l'Académie des Beaux-Arts. Il était la préface à l'édition du théâtre complet de Jules Renard, publiée en 1957 par les éditions Le Bélier. Signalons que le studio des Champs-Élysées à Paris propose à partir du 9 février 2011 un spectacle intitulé « Au moment de la nuit » autour de plusieurs œuvres, dont « Le pain de ménage » de Jules Renard, preuve que cet auteur est toujours monté au théâtre. Merci d'avoir été avec nous.